Europe Soir,
le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débat, de points de vue. C'est votre 18-20 dans une poignée de secondes, le journal de la rédaction. Dans 20 minutes, le retour du pass sanitaire pour les lieux de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Cela concerne notamment les théâtres, les cinémas. Qu'en pense le comédien Jacques Weber? Il sera mon invité ce soir. 18h30, le débat des grandes voix. On va revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron. Il y a eu les annonces hier soir et puis il y a les ajustements aujourd'hui. Vous réagissez au 39-21, je vous attends. Et puis à 19h15, votre club des idées. On va parler télétravail. S'il se généralise à la rentrée, est-ce que cela va changer l'organisation des entreprises? Vous êtes salarié, vous êtes patron, vous prenez là encore la parole au 39-21. Mais avant cela, toute l'info avec le journal présenté par Roman Hoquet. Bonsoir Roman.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Bon début de soirée sur Europe 1. Il est 18h.
Le pass sanitaire sera exigé pour les clients, les usagers, dans un grand nombre de lieux. Et là aussi, nous allons communiquer des règles de souplesse qui permettent de répondre à cette situation.
Moins de 24 heures après les annonces, le gouvernement réfléchit déjà à des aménagements pour le pass sanitaire. Restaurateurs, cafetiers, commerçants, tous demandent une tolérance. Jusqu'où l'exécutif est prêt à aller? Nous ferons le point avec Claudia Bertram.
Un discours est là, rué vers les centres de vaccination. Certains tentent même leur chance sans rendez-vous. Reportage dans ce journal.
Nous serons aussi en ligne avec le directeur de la plateforme Doctolib en surchauffe. Presque 2 millions de créneaux réservés depuis l'allocution hier soir.
Dans le reste de l'actualité, le 14 juillet, avec le portrait d'Anaïs. Il y a un an, elle était manager dans une entreprise du CAC 40. Demain, elle défilera sous les drapeaux sur les Champs-Élysées.
En rugby, le 15 de France a terrassé les Wallabies. Chez eux, victoire 28-26 en Australie, une première depuis 1990.
Et puis le Tour de France, bien sûr, où l'Autrichien Patrick Konrad s'est imposé sous la pluie et dans le froid de cette 16e étape pyrénéenne.
Ce soir, la Bourse de Paris termine quasi stable à 6558 points.
La tendance météo. Bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, il va encore pleuvoir demain sur un grand quart nord-est, parfois abondamment à proximité des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes, alors qu'une amélioration va se faire par le nord-ouest, avec des éclaircies de plus en plus larges et du soleil, moins de vent en Méditerranée. Bref, météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure, Marine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La fermeté d'hier et les compromis, finalement, aujourd'hui. Car au-delà des annonces, le gouvernement se penche désormais sur la mise en œuvre concrète du pass sanitaire.
Il sera obligatoire dès la semaine prochaine dans les cinémas et les théâtres, puis en août dans les bars, les restaurants notamment.
Bonsoir Claudia Bertram.
Bonsoir.
Claudia, cet après-midi, les représentants des restaurateurs, des salles de sport, des centres commerciaux ont été reçus par leur ministre de tutelle parce que le gouvernement réfléchit finalement à plus de souplesse pour ce pass sanitaire.
Oui, c'est en tout cas ce qu'a promis le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres. Souplesse d'abord pour les jeunes, les 12-18 ans.
On est évidemment pragmatique, de bon sens. On est lucide sur le fait qu'il y a plusieurs millions de jeunes entre 12 et 18 ans qui n'ont pas un schéma vaccinal complet, voire qui n'ont pas reçu ne serait-ce que la première dose. Et que, évidemment, l'objectif n'est pas d'entraîner un été infernal pour ces familles et pour ces enfants. Donc, il y a une souplesse qui va être donnée.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, devait échanger dans l'après-midi avec les autorités sanitaires et scientifiques afin de définir ces règles de souplesse. Parmi les pistes, des tests valables au-delà de 48 heures, la prise en compte de la première dose du vaccin ou encore l'utilisation du statut vaccinal des parents. Olivier Véran devrait communiquer prochainement, peut-être dès ce soir, a indiqué Gabriel Attal. Alors souplesse aussi pour les salariés des établissements recevant du public, les restaurants, les cafés qui devront également avoir un pass sanitaire. Alors que les représentants de ces secteurs réclament un report de cette mesure à début septembre, là encore, des discussions ont eu lieu cet après-midi et se poursuivent entre ces secteurs et le ministère de l'économie.
Merci Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Et on en reparle dans un instant avec mon invité, le comédien Jacques Weber. Les Français, en tout cas, n'attendent pas. Les annonces du chef de l'État ont provoqué une ruée vers les centres de vaccination.
Marion Gauthier, vous êtes allée à la mairie du 18e arrondissement de Paris, où ils étaient très nombreux à tenter leur chance, même sans rendez-vous.
Oui, la file d'attente commence dès l'entrée, monte dans les étages, s'étend dans les couloirs. Amine fait partie des leftos venus à l'improviste.
J'ai eu de la chance, je crois que je suis le dernier, enfin pour la journée. Mais apparemment, il y a eu un vrai raz-de-marée suite aux annonces gouvernementales qu'il y a eu hier. Ma fille m'a envoyé un texto ce matin me disant « Papa, fais-toi vacciner, sinon on ne part pas en vacances, donc pas le choix. »
L'allocution du président comme un électrochoc. Dans la foule, Jean-Charles a rapidement abandonné tout espoir d'obtenir une dose cet après-midi, mais il pourra au moins fixer un rendez-vous.
Moi, je vais le faire depuis un petit
moment, j'ai pas pris le temps. Et là, le fait qu'on puisse plus aller dans nombreux endroits en août, ça accélère la décision de le faire.
Alors, il faut préciser que la mairie du 18e a ouvert la vaccination au sans rendez-vous depuis hier seulement et après un creux de plusieurs semaines. Aujourd'hui déjà, la valse des aiguilles reprend à son rythme maximum, se réjouit Dalila, la coordinatrice, et Corée, le médecin responsable du centre.
Dès l'ouverture de la mairie, on a plus d'une centaine de personnes qui se sont présentées en une heure et ça continue.
Sachant que la semaine dernière, on était à une centaine, 150 personnes par jour.
L'équipe réfléchit désormais à recruter du personnel pour le reste de l'été.
Bonsoir Stanislas Nyokchateau.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la plateforme Doctolib où la prise de rendez-vous a explosé. 1 700 000 Français ont réservé un créneau de vaccination depuis hier soir. C'est un record ?
Exactement. Écoutez, c'est 4 fois plus que le dernier record qui datait du 11 mai. Et donc, il y a eu un engouement très fort suite aux annonces d'Emmanuel Macron hier soir, puisque 900 000 Français ont pris leur rendez-vous de vaccination hier soir. Et l'engouement s'est poursuivi durant la nuit et toute la journée. 800 000 Français depuis ce matin ont pris un rendez-vous. Et donc, comme vous l'avez dit, 1 700 000 de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib depuis hier soir.
Il y a eu des bugs ou pas ?
Non, écoutez, on était prêts. On avait développé en fait au mois d'avril une liste d'attente, comme pour les grands sites de billetterie. On a dû mettre cette liste d'attente hier soir puisqu'il y a eu des millions de connexions à la minute au moment de l'allocution. On n'a pas dû la remettre aujourd'hui. Mais bien sûr, on est prêt à la remettre si on en a besoin. Après, comme on a déjà géré 50 millions de rendez-vous de vaccination depuis le début de la campagne, on était prêt à cette affluence. Mais c'est vrai qu'il est record. Hein. Le 11 mai, c'était 500 000 Français. Et là, 1 700 000 en moins de 24 heures, clairement, affluence record.
Quel est le profil des personnes qui ont pris ces rendez-vous et donc qui n'étaient pas encore vaccinées ?
Écoutez, 2/3 de ces 1 700 000 ont moins de 35 ans. Ce qui est normal parce que 80% des plus de 50 ans sont vaccinés à date. Et il n'y a pas de répartition géographique. Tous les Français dans toutes les régions sont mobilisés depuis hier soir 20h.
Stanislas Nyokchateau, dernière question. Est-ce que vous avez fait des projections pour les prochains jours ? Est-ce que ce sursaut peut durer ?
Écoutez, très difficile. Sincèrement, vous m'auriez interrogé hier. Midi, je vous aurais dit qu'on se fait 150 000 rendez-vous par jour. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore de la disponibilité sur Doctolib, que les centres ils continuent de mettre en ligne des créneaux. Ils vont continuer de le faire dans les jours à venir. Et donc, si vous n'êtes pas parmi les 38 millions de Français qui sont déjà vaccinés ou qui ont pris un rendez-vous, ne vous inquiétez pas, vous aurez des rendez-vous dans les jours à venir. Ça va continuer à un niveau soutenu à minima jusqu'à la fin de la semaine, mais très probablement jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Merci Stanislas Nyokchateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de la plateforme de rendez-vous Doctolib.
La vaccination donc, le sésame pour obtenir son pass sanitaire. Il sera d'ailleurs obligatoire demain dans les tribunes des Champs-Élysées pour assister au défilé du 14 juillet.
Une marche en rythme sur les pavés et une première pour les élèves de l'école des aspirants de Couadquidan en Bretagne. Un établissement qui recrute des civils en reconversion. Parmi eux, il y a Anaïs. Aude Leroy l'a rencontrée lors des répétitions du défilé.
31 ans et seulement 10 mois sous les drapeaux, c'est bien le statut de l'aspirant Anaïs. Cette jeune femme au sourire éclatant s'apprête à devenir chef de section, à commander et non plus à manager, comme on dit dans la vie civile.
J'ai un master en management ainsi qu'une licence en pharmaceutique et j'ai travaillé pour une entreprise du CAC 40 dans le milieu hospitalier pendant 6 ans avant de m'engager. Je ne me retrouvais plus dans les valeurs de mon entreprise. Business, la stratégie business avait complètement changé et ça ne correspondait pas.
Un changement de vie radical après un déclic, les attentats du 14 juillet 2016 à Nice, où elle est alors présente.
Ce sont des actes que je ne comprends pas, mais vraiment, qui me sidèrent. Et surtout, en tant que civile, on se sent démuni, on ne sait pas quoi faire. Et là, aujourd'hui, ça donne un sens à pouvoir agir contre ce genre de faits.
Servir la France, ce rêve est partagé par un de ses camarades, Pierre-Luc, qui lui a laissé son métier d'ingénieur en aérospatial à Toulouse pour endosser l'uniforme à 28 ans.
Le récit d'Aude Leroy. Et je vous rappelle que ce défilé du 14 juillet, vous pourrez le suivre en direct dès 10h sur l'antenne d'Europe 1.
Dans l'actualité internationale à présent, les talibans gagnent du terrain en Afghanistan.
L'ambassade de France demande donc à tous les expatriés français de quitter le pays pour leur sécurité. Un avion leur sera réservé vendredi matin et aucun vol supplémentaire ne sera affrété, précisent les autorités.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europa avec ce record de réservation pour les gîtes de France.
Et puis la victoire historique du 15 de France qui s'est imposée sur la pelouse des Wallabies en Australie.
Ne bougez pas, on revient.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
18h10, la suite du journal de Romain Hoquet sur Europe 1 et cette décision du gouvernement qui a placé la Tunisie sur liste rouge à cause de l'épidémie de Covid.
Pour les vacances, il faudra donc oublier cette destination, une saison aussi compromise en Espagne, au Portugal, à cause des nouvelles restrictions.
8 Français sur 10 ont donc choisi de rester dans l'Hexagone pour l'été et ce sont les gîtes qui en profitent avec des carnets de réservation complets. Une saison record, détaille Solange Escure, elle est présidente de la Fédération des gîtes de France.
On a des taux d'occupation à date qui n'ont jamais été atteints sur l'Hexagone. Ce n'est pas tout à fait le cas sur les DOM. Donc on est pour le mois de juillet, par exemple, il reste encore quelques jours avant la fin du mois de juillet. On a un taux d'occupation à près de 80% en moyenne sur le mois de juillet. Et on est en avance par rapport à 2019. On a 14 points d'avance. Oui. C'est record, c'est historique. Cette année, nous avons aussi des records en termes de nouveaux hébergements. Il y a à la fois des propriétaires de maisons qui veulent rénover un patrimoine bâti et accueillir des vacanciers. Mais il y a effectivement quelques personnes qui ont aussi décidé de quitter les grandes villes pour aller vivre au vert et qui effectivement ont eu un projet d'hébergement touristique.
Solange Escure, présidente de la Fédération des Gîtes de France.
Le sport à présent. Roman, ça faisait 31 ans que le 15 de France ne s'était pas imposé chez les Wallabies.
Lors de cette tournée d'été, les Bleus avaient déjà perdu un premier match sur le fil à cause d'une erreur à la toute dernière minute face aux Australiens.
Et cette fois-ci, le 15 de France a tenu bon, victoire 28-26 cet après-midi à Melbourne. Et vaincre l'Australie sur ses terres, c'est historique, Julien Froment.
Oui, c'est historique en effet, puisque cela faisait 31 ans que le rugby français attendait cette victoire. Une victoire d'autant plus belle que le 15 de France, envoyé dans l'hémisphère sud en mission commando, est composé essentiellement de joueurs remplaçants en club ou évoluant en pro D2. Mais ce midi, ils ont été immenses de bout en bout. Par exemple, le buteur Melvin Jaminet, 8 sur 8 devant les perches. La défense héroïque, la mêlée solide, voilà comment s'est construite cette victoire qui valait bien un tour d'honneur sous les acclamations des quelques Français présents à Melbourne. Et le sélectionneur Fabien Galthié, qui avait mal digéré la défaite du premier test match, on le rappelle, un ballon perdu bêtement dans les ultimes secondes, savoure cette fois-ci cette victoire en terre australienne.
Il nous reste 4 jours à vivre ensemble. Demain, c'est le 14 juillet, la fête nationale. Nous allons profiter de ce moment-là aussi tous ensemble. Et puis, il nous restera ensuite 3 jours que nous souhaitons vivre de manière délicieuse.
Célébrer le 14 juillet, bien récupérer et repartir au combat dès samedi prochain car les Bleus n'en ont pas tout à fait fini avec cette tournée australienne qu'on peut d'ores et déjà qualifier de grande réussite pour le rugby français.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1, une performance qu'il faudra donc confirmer samedi avec ce dernier test match entre les deux équipes.
Romain, en football, on connaît désormais les tarifs du nouveau diffuseur de Ligue 1 Amazon.
Oui, pour la saison prochaine, il faudra payer 12,99€ par mois en plus de votre abonnement à Amazon Prime, le prix pour avoir accès à 8 matchs par journée de Ligue 1.
Et tout de suite, on part sur la route du Tour de France.
Europe 1 en direct du Tour de France.
Avec la 16e étape cet après-midi entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens en Haute-Garonne sous la pluie.
169 km dans les Pyrénées, un parcours musclé pour cette dernière semaine sur les routes. Axel May, vous suivez le Tour de France pour Europe 1 et c'est un Autrichien qui s'est imposé cet après-midi.
Oui, Patrick Konrad, 29 ans, champion d'Autriche, a fini en solitaire après une sacrée performance. Il a d'abord rejoint un groupe d'échappés, puis à 30 km de l'arrivée, est parti en solo, résistant en costaud à ses poursuivants. Rappelons que son coéquipier de l'équipe Bora, Nils Polite, avait gagné à Nîmes jeudi dernier, le jour où la star de cette équipe allemande, Peter Sagan, abandonnait. Cette fois, c'est donc Konrad qui apporte cette deuxième victoire à l'équipe Bora. Alors, je vous donne quelques chiffres. 16 ans qu'un Autrichien n'avait plus gagné une étape sur la grande boucle. 9e victoire d'étape en solitaire sur ce Tour de France 2021. On ne doit pas être loin d'un record. Le maillot jaune a fini à 15 minutes, mais pas de changement dans le classement général. Et puis, Thierry le disait, il a fait froid, il a plu, des conditions météo qui sont vraiment compliquées pour les coureurs depuis le début de ce Tour de France. Demain et après-demain, deux grosses étapes dans les Pyrénées. Là, c'était une sorte de mise en bouche avec Muret-Saint-Lary-Soulan demain et après-demden Pau-Luzardiden avec deux arrivées à chaque fois au sommet, des cols hors catégorie. Bref, ça va faire mal aux jambes.
On y sera. Merci beaucoup Axel May qui nous fait vivre tous les jours la grande boucle sur Europe 1.
C'était le Point Étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie.
C'était parfait, c'était signé Roman. Ok, on vous retrouve Roman à 18h30 pour le rappel des titres. Alors la météo, Marlène Duré. Est-ce que le temps s'améliore demain dans le Nord-Est ?
Alors, écoutez, le plus gros des pluies est passé. L'alerte orange a été levée en Alsace et dans le territoire de Belfort. Mais on attend de voir ce qui va se passer avec les cours d'eau. Parce qu'avec ce qui est tombé ces derniers jours...
Ça gonfle. C'est un peu en effet débordé. Attention,
prudence. On peut craindre des phénomènes de crue. Mmh. Sans compter que la pluie va revenir. Elle est encore d'actualité. Je ne sais pas pourquoi je ris d'ailleurs. Non. C'est pas drôle.
Non, mais ça commence à être un petit peu en effet.
Oui, sur un grand quart Nord-Est demain avec des précipitations quasi stationnaires en Champagne-Ardenne. Donc, il va pleuvoir du matin au soir. Il va pleuvoir aussi abondamment en Lorraine et en Alsace, plutôt dans l'après-midi. Quelques orages peuvent se noyer dans la masse. Alors Paris sera en marge. Donc on va se réveiller sous un ciel couvert. Voilà pour le défilé.
Comme d'habitude,
Et puis quelques averses l'après-midi. Bon voilà. Et puis le Berry, l'Auvergne et le Lyonnais, qui étaient sous la zone de pluie active le matin, verront s'éloigner, vont sortir de cette zone. Voilà. Sur le reste du pays, un ciel qui va hésiter entre nuages et soleil. Moins de vent qu'aujourd'hui en Méditerranée. Une tendance à amélioration. Qui va commencer par le nord-ouest, donc Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire. On va voir arriver les éclaircies. Lentement mais sûrement, le soleil va grignoter un petit peu de terrain par la façade atlantique et le week-end s'annonce agréable.
Ah, donc beau. On est mardi, on peut se dire que ce week-end, le soleil est là.
A priori, oui. Beau, chaud, avec des températures dignes d'un mois d'été, une moyenne de 27 degrés au nord et 30 au sud pour la journée de dimanche.
Allez,
les températures pour demain. En attendant. Parce que ça commence à remonter tout doucement par l'ouest. Il fera 16 degrés à Beaufort en Savoie, 17 à Commercy dans la Meuse, 17 également à Belfort, nous aurons 18 à Dijon, 20 degrés à Biarritz, à Lille et à Lyon, 21 à Montluçon et Amiens, 22 à Paris, 24 à La Roche-sur-Yon, 25 à Orange, 27 à Grasse et la maximale 28 du côté de Montpellier.
Notez bien ce week-end le retour du soleil, à tout à l'heure 18h30.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, passe sanitaire, vaccination, aide de l'État à la culture, mais aussi théâtre, création, Shakespeare, Molière et les autres. On en parle avec le passionné Jacques Weber dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h18, mon invité ce soir est un homme de théâtre, de cinéma et de télévision. Bonsoir Jacques Weber.
Bonsoir.
Une question d'actualité pour commencer, bien sûr, ce pass sanitaire qui sera désormais obligatoire pour aller au cinéma, au théâtre dès la semaine prochaine, il était selon vous nécessaire, Jacques Weber ?
Oui, mais ce qui est sans doute le plus nécessaire est tellement évident que je me demande pourquoi il y a tant de questions, puisqu'il est déjà arrivé en France qu'il y a des vaccins obligatoires. Donc je ne comprends pas du tout cette histoire. Je trouve qu'on devrait immédiatement et sans la discrimination aucune, ou quelle qu'elle soit, au répertoire, ordonner la vaccination obligatoire pour tout le monde. Je crois ça simplement.
Là, pour l'instant, on est sur la vaccination obligatoire pour les soignants.
Bah oui, mais oui, je sais bien, mais je trouve ça un peu ridicule, parce que cette histoire de liberté individuelle, tout ça, c'est des confusions mentales absolument incroyables.
Ça veut dire quoi pour vous, le président aurait dû aller plus loin hier soir ?
Je pense, mais bon, tout ça est très compliqué. Je pense que ce sont des débats dans lesquels j'ai pas envie de mettre mon petit caca nerveux en plus. Mais je trouve simplement que je comprends pas pourquoi il y a ce débat, alors même que quand vous allez en Asie, on vous oblige à faire la fièvre jaune. Si vous le faites pas, vous y allez pas. C'est tout, point final. Là, il est question d'une mesure pour qu'on retombe pas dans une merde considérable où il y aura même plus d'histoire de passeport et qu'il faudra refermer tout. C'est évident.
Le retour du pass sanitaire la semaine prochaine, notamment dans les théâtres, ça va pas freiner finalement la dynamique qui était là?
Non, je crois pas. Je crois que c'est au contraire, c'est la moindre des choses, c'est très bien. Et puis il y a en effet une dynamique qui s'est remise en route. On voit bien Avignon, on voit bien un peu partout. Donc c'est tant mieux. Je crois que plus on ira dans des précautions que l'on n'a pas prises avant, pour cause d'ailleurs, c'est qu'on ne savait pas la gravité de la chose, je pense que ça sera très bien. Mais je trouve qu'on devrait être beaucoup plus radical que ça concernant la vaccination. Une fois pour toutes, il faut que les gens sachent, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, que ça a toujours, sur énormément de maladies, sauvé des millions et des millions et des millions de gens. C'est tellement simple.
Ça veut dire que vous ne comprenez pas la réticence de certains soignants qu'on a pu entendre sur l'antenne
d'Europe 1. Non, mais vraiment, ça me surprend d'autant plus que je connais certains d'entre eux, et beaucoup, et je connais ce milieu, et je trouve sont des gens magnifiques et qui sont formidables de dévouement et tout ça. Et je comprends pas leur méfiance, leur défiance. C'est quelque chose qui m'échappe complètement. Mais encore une fois, je n'ai pas de jugement ni sur eux, surtout pas sur eux. Sur eux, je dis simplement que j'aurai une responsabilité à prendre, avec les risques que ça encourt. Je prendrai celle de dire obligatoire pour tout le monde, hein, point c'est tout.
Jacques Weber, est-ce que vous ressentez avec cette crise un attachement particulier des Français au secteur culturel qui repart. Les théâtres, les cinémas sont pleins. Il y a un vrai engouement.
Oui, alors oui et non. C'est-à-dire, méfions-nous de ces engouements. On a bien vu que sur le plan du cinéma, par exemple, ça n'a duré que 2 jours et qu'ensuite ça s'est restabilisé. Donc tout ça sont des effets un petit peu normaux, quoi. Des synergies un petit peu évidentes. Méfions-nous sur la longueur. C'est comme quand on a dit la France Black Bomber en 98. Ah là là, youpi, ça y est. Et puis non, pas du tout. Donc méfions-nous. Je dis simplement que pour l'instant, c'est heureux. Si ça pouvait surtout développer la curiosité des gens vers qu'ils aillent vers des spectacles et des films et des expos, pas où tout ne tombe pas rôti dans le bec, où il faut avoir de la curiosité, où il faut un petit peu se bouger, ben c'est formidable. Enfin, ouais. ça serait magnifique. Croisons les doigts, espérons-le. Moi, je n'en suis pas si sûr que ça. On sait très bien, hélas, très, très, très hélas, que pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, que le phénomène culturel est un phénomène. En tout cas, je parle du spectacle, de l'univers du spectacle et du cinéma qui intéresse réellement peu de gens dans la population.
Jacques Weber, est-ce que vous vous dites finalement que le ministère de la Culture a été présent pendant cette pandémie et a aidé la culture, mine de rien ?
Bah, écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu quand même des aides qui ont été données, qui n'ont pas du tout été pratiquées dans d'autres, dans d'autres pays.
Il faut le dire, plus donc, 12 milliards d'aides.
Il faut vraiment le noter, c'est tout à fait louable. Bon, après, il reste plein d'autres problèmes qui sont là, qui existaient bien avant. Et les déséquilibres sociaux sont beaucoup plus graves que le simple corporatisme dont on parle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu des efforts réels, concrets, de la part du ministère de la Culture, donc de l'État, parce que n'oublions jamais qu'un ministère n'est autre chose qu'un administrateur d'une volonté d'État. Lang était un très grand ministre, mais il appartenait aussi à un État qui avait envie que la culture ait une importance.
Et voilà. Roselyne Bachelot ?
Bah, écoutez, elle a l'air pour l'instant très sympathique. Je ne suis pas si sûr que ça, qu'elle soit tellement soutenue sur le plan culturel de façon générale par ce gouvernement qui a d'autres préoccupations, visiblement. Enfin bon, il y a eu des crises très graves à négocier. On verra ça après.
On va parler de vous, Jacques Weber, parce que ça a été une année très chargée pour vous. Vous avez réalisé 3 films, Atelier Vania, d'après, bien sûr, Oncle Vania de Tchekhov, diffusé en mai dernier sur France 5, Atelier Cyrano, d'après l'œuvre d'Edmond Rostand, prévue pour l'automne sur la même chaîne, et puis Atelier Misanthrope, d'après Molière. Bien sûr, vous avez été très, très prolixe, finalement. Ça n'a pas été une année à l'arrêt pour vous, hein.
Simplement, je me suis dit, les théâtres étant vides, il faut que je garde un peu la tête pleine. Donc, et je me suis dit que c'était une solution pour que, voilà, qu'on répète comme au théâtre, qu'on travaille comme au théâtre, mais qu'on travaille avec l'image, avec ce qui était possible. Et ça donne un résultat extrêmement intéressant, mais qui ouvre des perspectives possibles, différentes, quant à la retransmission ou à la transmission, plus exactement. Parce que retransmission, ça veut dire qu'on retransmet un spectacle déjà existant et conçu pour le théâtre. Là, il s'agit justement de transmettre du théâtre conçu pour l'écran. Donc c'est très très différent. Et le dernier travail que nous avons fait, vous savez, j'ai fait tout ça parce que d'abord et avant tout, j'avais envie de travailler, de partager mon travail parce qu'avec les acteurs pour lesquels j'ai une immense admiration, comme ça a été François Morel, ça a été Audrey Bonnet, Christine Bruyot et des gens comme ça. Puis là, le dernier, c'était avec Denis Podalydès et on s'est amusé comme des fous et je trouve c'est très important de dire s'amuser joyeusement, jouer. Ne pas être que théorique, dogmatique ou comme ça du haut de notre soi-disant science ou expérience. Bon, c'est vrai qu'on en a, faut pas la nier, mais ce qui est très beau dans le travail qu'on a fait autour de cette première scène du Misanthrope, vous rendez compte qu'on rôde autour pendant 1h30 sur une scène de 12 minutes et c'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, ce partage avec cet immense bonhomme qui est Denis. Quoi, voilà.
Ce sera l'été chargé pour vous. Vous serez notamment, il faut en parler au théâtre, dans les Alpages, en Haute-Savoie. Vous interpréterez Éclat de Vrille. Hein, c'est le jeudi 29 juillet, c'est ça?
Oui, oui. Mais ça, c'est mon côté complètement fou. Parfois, je me le reproche. J'ai quelques jours de vacances au milieu d'un tournage et au milieu des répétitions, de l'apprentissage du texte du Roi Lear. Et il faut c'est que ça. Je me colle.
Roi Lear, ce sera au mois de novembre, à Porte Saint-Martin à Paris.
Ouais. Et bon, ce festival m'a plu parce que l'homme qui le tient à bout de bras est un homme plein de passion. Le site qu'il m'a montré est absolument splendide.
C'est ça,
de
c'est jouer. En plein massif du Mont-Blanc. Ça va être du théâtre en plein air. Quoi.
Jouer en plein massif du Mont-Blanc avec les cloches des vaches à moitié endormies, j'espère quand même un peu. Mais en même temps, c'est sublime. Quoi. C'est jouer dans ce type de plein air. Il y a quelque chose de... Il y a un lien poétique entre les textes que vous faites passer et puis le site. Et bon, voilà, c'est des moments de grâce, je l'espère, et en tout cas de joie de jouer, formidable. Quoi. Donc voilà, donc je ne peux pas m'en empêcher. De toute façon, moi, au bout de 2 jours, il faut que je joue, sinon je tiens plus.
Toujours boulimique et passionné, toujours, Jacques Weber.
Oui, c'est vrai. Enfin, boulimique, oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Je ne peux pas le nier, c'est vrai.
C'est un compliment.
Je n'en fais pas assez, mais voilà.
Jacques Weber, ce soir sur Europe 1, c'était un plaisir de vous entendre. Merci à vous. Merci à vous.
Merci infiniment. Et puis à bientôt.
Bel été.
Voilà. Au revoir. Bel été. Au revoir.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, l'essentiel de l'info. Puis les grandes voix. Il y a les annonces hier soir du président. Puis il y a les souplesses, les aménagements du lendemain. Vous prenez la parole, vous êtes déjà très nombreux au standard 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Romain Hoquet.
La quatrième vague de l'épidémie pourrait avoir commencé. L'avertissement de Gabriel Attal cet après-midi à la sortie du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a aussi promis des règles de souplesse pour les 12-18 ans concernant le pass sanitaire, alors que les Français se précipitent dans les centres de vaccination. La France place la Tunisie sur liste rouge. Les personnes non vaccinées ne pourront donc plus s'y rendre, sauf avec un motif impérieux. Une amende record infligée à Google. Le gendarme français de la concurrence réclame 500 millions d'euros aux géants américains pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse. 31 ans que le 15 de France ne s'était pas imposé chez les Wallabies. Les joueurs tricolores ont battu cet après-midi les Australiens 28-26 à Melbourne. Et puis en tennis, Roger Federer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo à la fin du mois. Le joueur suisse l'a annoncé sur son compte Twitter.
Merci Romain Hoquet. Prochaine édition complète à 19h. La météo, Marlène Duré, pas de répit hein, pour les régions du Nord-Est.
Non, la pluie sera encore d'actualité des Hauts-de-France aux Alpes du Nord. Il pleuvra carrément des cordes en Champagne-Ardenne du matin au soir. Il pleuvra aussi abondamment en Lorraine et en Alsace. Plutôt en journée, quelques orages peuvent se déclencher. Paris sera un petit peu en marge. Moins de vent en Méditerranée. Un début d'amélioration aussi dans le Nord-Ouest. Amélioration qui va se confirmer dans les jours à venir avec le retour du beau temps, la chaleur aussi. En attendant, les températures pour demain afficheront 17 à 22 degrés en général, 22 dans la capitale. Du côté de la Méditerranée, il fera 25 à 28 degrés.
Merci Marlène, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
On ouvre le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés en studio Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Et
bonsoir à tous.
Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Bruno. Et bien sûr avec vous, 39-21, vous êtes déjà très très nombreux. On va vous écouter parce qu'on va bien sûr parler et revenir longuement pendant cette demi-heure sur l'allocution présidentielle d'hier soir qu'on a pu suivre en direct sur Europe 1. Alors il y a les annonces hein, bien sûr sur le pass sanitaire hier soir et puis il y a Bruno Le Maire qui recevait les représentants des centres commerciaux cet après-midi, Olivier Véran, les scientifiques pour le temps entre deux doses, Alain Grisé, les restaurateurs. Finalement, Bruno Jeudy, ils ouvrent la boîte de Pandore des exceptions.
En fait, c'est une figure qu'on retrouve au lendemain de chacune des allocutions présidentielles. Souvenez-vous.
Ces gens décident et ils exécutent. Bah,
c'est-à-dire qu'en fait.
À vous de gérer l'après, quoi.
Il annonce des dispositions générales et puis derrière, pour mettre ça en œuvre, évidemment, quand on rentre dans les détails, c'est là que le diable se cache et à chaque fois, ça veut dire des exceptions, ça veut dire on travaille sur les jauges, on travaille sur ceux qui vont. Qui ne vont pas être concernés par l'extension du pass sanitaire. On travaille sur les professions qui ne vont pas être concernées par la vaccination obligatoire. Et évidemment, à chaque fois, ça entraîne des arguties, des pressions aussi des groupes professionnels, voire même des conflits entre ministres, parce qu'on sait que dans cette affaire, on sait qu'entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, les arbitrages ont été très tendus jusqu'à la fin.
Jusqu'à hier soir.
Bruno Le Maire défendant l'idée de pouvoir que les restaurateurs échappent, par exemple, à cette règle du pass sanitaire, quand évidemment, compte tenu de cette question du variant Delta, le ministre de la Santé a fait pression pour qu'on aille le plus loin possible tout de suite dans les mesures afin de pouvoir endiguer une éventuelle quatrième vague.
Frédéric Dabi, pourquoi ce travail n'est pas fait finalement en amont ? Pourquoi à chaque fois il faut revenir sur l'ouvrage ?
Oui, alors c'est cet exercice imposé dont parle Bruno, on l'a vu dans de très nombreuses interventions. L'intendance doit suivre et le président n'a pas à se mêler de l'intendance. Au-delà de ça, au-delà de la mise en musique, je suis frappé comme je n'ai pas eu d'enquête, je ne vois pas l'impact. On aura notre enquête IFAB JDD dimanche dans quelques jours. Ouais. À quel point l'impact de l'intervention a été fort, pas seulement en termes d'audience, on a eu des interventions qui ont été plus vues, notamment celles de mars et d'avril 2020, mais comme ne serait-ce l'indicateur du nombre de Français qui sont précipités sur différents sites pour pouvoir s'inscrire et pouvoir aller se faire vacciner. 1,5 million, je crois, exact. C'est quand même assez impressionnant. On est encore à 5000 connexions par minute. De ce point de vue-là, la première partie du triptyque de l'intervention présidentielle, à savoir vaccinez-vous, faites-vous vacciner, on a quand même fait bouger les lignes alors qu'on était sur une période où les Français étaient, enfin la partie des Français non vaccinés était sur une logique d'attente et de non vaccination. Donc de ce point de vue-là, au-delà de cette mise en musique peut-être un peu compliquée, et c'est vrai que on a déjà vu, il y a une tension dans l'opinion publique entre le risque sanitaire qui est jugé moins grave que le risque économique, mais avec l'inquiétude qui remonte sur les variants, de nouveau le risque sanitaire reprend le dessus sur le risque économique. C'était absolument normal que ça se concrétise aussi avec cette opposition vers Le Maire.
Et il y avait une attente, on le rappelle, 22,4 millions précisément de téléspectateurs hier soir. On va parler du fond, de la forme et des réformes. Bruno, jeudi, sur la forme, Emmanuel Macron a choisi la fermeté, le chef a chefé, pour paraphraser Jacques Chirac.
Oui, c'est vraiment une intervention assez étonnante en deux parties. On a vraiment les deux Macron.
Très sanitaire, très politique.
Le Macron de la crise et le Macron de la relance un peu. C'est vrai que dans la première partie, c'est Jupiter is back, la première partie. C'est vraiment, ça tombe d'en haut, il décide et ça va même plus loin. Ça va même plus loin que ce qu'avaient imaginé les uns et les autres, y compris ses ministres. On le voit avec le pass sanitaire, où ça va très très loin. Ouais. Personne n'avait imaginé que ça toucherait aussi les restaurateurs. On parlera peut-être de la deuxième partie, qui elle est beaucoup plus floue, beaucoup plus... on est dans le dilatoire, et en gros, il ne va rien se passer d'ici la fin du mandat. À part, j'allais dire, président de la Covid. Ouais. Et peut-être que président de la Covid, c'est ce qui lui va le mieux actuellement, parce qu'il y a un côté capitaine de la tempête qui fonctionne, on le voit dans les enquêtes d'opinion.
Moi, Bruno, jeudi, a vu demi-temps. Moi, j'ai vu plutôt un triptyque, c'est-à-dire le sanitaire, avec toutes ces annonces faites qui ont été faites avec beaucoup d'autorité.
Ça commence par la France va bien et on s'en sent pas trop mal avec une croissance prévue de 6%.
Les constats, les annonces, et l'économique. Mais au-delà de le sanitaire, l'économique, la troisième partie du triptyque, c'est quand même ce fameux, et c'était écrit, l'annonce de plan était quand même écrite sur nos écrans, préparer notre avenir. Oui, on a eu un président candidat président. On n'est pas sur le François Mitterrand qui dit rien jusqu'en mars 88. On n'est pas sur le.
C'était marqué sur l'image. Il y avait le pupitre et le plan large de la Tour Eiffel. Ça rappelait le Louvre du début du mandat.
Exactement. Et donc ouvrons cette parenthèse.
Et donc de ce point de vue-là, préparer notre avenir, c'était l'offre programmatique du candidat président et surtout
un peu léger quand même l'offre programmatique.
Un peu léger. Bruno, il a quand même, si je puis dire, rallumé le moteur du macronisme qui était en panne depuis mars 2020, à savoir la réforme, la transformation du pays.
immodestement, je pense qu'il a peut-être regardé notre enquête IFOP fiduciale pour le JDD de dimanche, où on voit que les électeurs d'Emmanuel Macron attendent plus que jamais des réformes, et notamment la réforme des retraites.
Et à 10 mois de la présidentielle, il a parlé aussi un peu à la droite, avec attention, je vais réformer.
Attention, je vais réformer. Il a quand même reste 10 mois, Thierry. On va quand même regarder les choses.
9 mois d'ici la présidentielle, puisque ça a été annoncé pour le 10 avril.
Non, moi, je trouve surtout qu'il y avait le clin d'œil. Alors, pour le coup, moi, c'est l'image. Je pense qu'il n'a pas dit grand-chose en deuxième partie. Il n'y a pas grand-chose de concret, et j'allais dire d'opérationnel dans les 9 mois qui viennent.
L'assurance chômage,
L'assurance chômage, mais elle existe déjà. Là, il donne la date. C'est sans doute la chose la plus précise. Pour le reste, c'est un peu des mesures pour. On verra plus tard. Mais c'est surtout l'image. C'est 5 ans, jour pour jour, après son meeting de la mutualité du 12 juillet 2016, qui est vraiment le moment où il envoie le message à François Hollande qui sera candidat à la présidentielle. Ça se passait à la mutualité. 5 ans plus tard, il ressort le pupitre avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Il se met devant la Tour Eiffel. Ouais. Et là, on pense à quoi? On pense à la soirée du deuxième tour, sa victoire, le Louvre.
Rapidement, Bruno Jeudy, avant de marquer une pause, pourquoi justement changement de décor? Pas à l'Élysée, mais devant la Tour Eiffel?
Et parce que je pense que subliminalement, il y a le côté. On a le président dans la première partie de cette intervention. Ouais. Et dans la deuxième partie, on passe au président candidat.
Allez, Frédéric, je pense aussi que c'est tout à fait cette mue président candidat. Et là, il invente complètement une nouvelle formule par rapport à ses prédécesseurs qui, jusqu'à la fin, faisaient taire leur volonté d'être candidat. On sent qu'il est déjà parti en campagne. Il veut être dans une logique d'échapper, comme on dit dans le Tour Cycliste.
Allez, décryptage, analyse jusqu'à 19h avec nos grandes voix. Et bien sûr, avec vous, un 39-21, vous êtes nombreux. On va vous écouter dans un instant. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et c'est le débrief de l'allocution présidentielle avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Match. Avec vous, bien sûr, 39-21, vous êtes très nombreux à nous contacter ce soir. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière libérale dans l'Essonne. Vous avez bien sûr écouté l'allocution du président Macron hier soir. Vous en avez pensé quoi?
Bah écoutez, je rejoins assez ce que viennent de dire vos deux invités, c'est-à-dire que j'ai été à nouveau déçue. Mais personnellement, en tant qu'infirmière, ça fait des années que je le suis. Malgré tout, je travaille toujours. J'ai été déçue parce que il n'y a même pas eu l'évocation des gestes barrières, parce que j'attendais beaucoup sur effectivement cette vaccination et la Covid. Et effectivement, je vais dire que les trois quarts du débat ont été une vraie campagne électorale. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour dire notre difficulté, nous aussi, les infirmières libérales, à travailler, tout simplement, parce que je rappelle que nous avons été autorisés à vacciner à partir du mois d'avril, uniquement, donc ça ne fait pas très longtemps. Je précise aussi, après les vétérinaires, même si ça fait sourire, mais c'est comme ça. Donc on revendique bien sûr. Oui, notre difficulté à nous est la suivante. On ne dispose que de l'AstraZeneca et du Janssen.
Et donc, il y a un refus des patients.
Alors, il y a un refus énorme, évidemment. Et pourquoi, moi, je ne vais pas conclure, mais je vais surtout dire, pourquoi aujourd'hui les gens refusent l'AstraZeneca et Janssen? C'est tout ce tapage qu'il y a eu auprès de ces deux vaccins. On est bien d'accord. Moi, j'ai des tas de gens qui se sont désistés, qui n'ont plus voulu de la deuxième dose. La Sécurité sociale l'a même écrit aux gens de moins de 50 ans qu'il ne fallait surtout pas faire la deuxième dose d'AstraZeneca, mais de se diriger sur le Pfizer ou le Moderna. D'accord. J'ose dire également que pendant un mois et demi, nous ne disposions que d'un flacon par semaine, par infirmière, c'est-à-dire 10 doses, monsieur. Voilà. Donc, on ne peut pas travailler, on ne peut pas, évidemment, je peux comprendre qu'on ne peut pas disposer du Pfizer et du Moderna, puisqu'ils se conservent les températures dont on ne peut pas assurer la vie en ville. Mais nous, on veut aussi, et pourquoi les gens refusent aujourd'hui? Alors, effectivement, depuis ce matin, chez nous aussi, c'est la folie.
Vous le sentez aussi chez vous, d'accord,
Je le sens aussi parce que des gens n'arrêtent pas d'appeler. J'ai mon voisin qui vient de venir frapper à ma porte où j'ai mon cabinet maintenant à mon domicile, si vous voulez, qui me dit, au fait, tu m'as parlé du vaccin, alors Alors nous, on est très coincés parce que même nous, les professionnels de santé, nous n'avons que des indications tout à fait contradictoires. Et là, je souris et je me moque aisément en entendant que déjà le gouvernement aujourd'hui recule par rapport à hier soir. Il faudrait quand même que le gouvernement comprenne que les Français sont effectivement une population qui est difficile à gérer, mais surtout que dans l'obligation qu'ils vont leur imposer, ça sera encore pire. Et pourquoi? Moi, j'ai aussi des enfants qui ont une trentaine d'années et qui me disent, maman, on a peur parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On entend différentes théories de différents épidémiologistes, des médecins qui eux-mêmes se contredisent. Moi, je vais vous dire, j'ai un médecin à la retraite que je suis qui m'a appelé ce matin et qui m'a dit, en fin de compte, Madame Bertrand, nous allons nous vacciner car on veut aller au restaurant dans cet été. Ouais. Alors, où on va aujourd'hui ? Il n'y a pas d'information. Moi, je vous rappelle, j'entends sans cesse M. Véran qui dit au début de l'intervention, au début de l'épidémie, le masque n'est pas utile. Mmh. Voilà.
Merci
donc,
à vous, Brigitte.
Donc, on veut de vraies informations. Mmh.
Ouais. Merci, mille merci. Merci pour votre prise de parole, bien sûr, 39-21. Frédéric Dabi, quand on écoute, par exemple, Brigitte, c'est vrai que depuis hier soir, en tout cas, il y a eu une opération réussie de la part d'Emmanuel Macron, c'est que les Français ont pris conscience peut-être qu'il fallait, pour être libre, se faire vacciner.
Clairement, oui. Emmanuel Macron a enraciné une croyance qu'on voit dans nos études et une équation que font maintenant l'énorme majorité de Français, puisque la part des antivax, c'est à peine 10-15%. Alors 10-15%, Thierry, ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. Cette équation, c'est pour retrouver le cours des jours heureux, une vie normale, il faut se faire vacciner. Mais quand j'entends ce que dit Brigitte sur... Ouais. Moi, en tant qu'infirmière libérale, j'ai eu le droit de vacciner tardivement. J'ai eu une dose seulement par semaine. Bah, le fait qu'il y ait 35 millions de Français vaccinés qui ont eu au moins une dose, c'est beaucoup, mais par rapport à beaucoup de nos voisins, on est en retard. Est-ce qu'un jour, on va rattraper ce fameux retard de décembre-janvier, de cette communication gouvernementale à bas bruit, où le gouvernement semblait plus s'adresser aux antivax qu'à l'ensemble des Français? Et c'est peut-être ce retard initial qui ne sera jamais rattrapé, dans la mesure où on nous avait parlé d'immunité collective à 60% de personnes vaccinées. On est maintenant à 90%. C'est peut-être ça que nous continuons de payer. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, l'intervention présidentielle d'hier a fait bouger des lignes.
Bruno, je dis, ce pass sanitaire étendu, est-ce que c'est finalement une obligation de vaccination sans le dire ?
Oui, absolument. C'est le choix qui a été fait finalement par l'exécutif. Même si Emmanuel Macron, hier soir, n'a pas totalement écarté l'idée de rendre même la vaccination obligatoire si ça n'était
pas suffisant. Bien sûr.
Ce qui est quand même, j'allais dire, presque une première dans les pays occidentaux. Hein, parce qu'aujourd'hui, la vaccination obligatoire, ça n'existe pratiquement pas. Je crois qu'il y a le Turkménistan,
je ne sais plus
quel pays.
Mais Angela Merkel a dit cet après-midi,
Alors en Europe, il y a déjà l'Italie qui a instauré la vaccination obligatoire pour les soignants. Avec d'ailleurs efficacité, ça marche. La Grèce va prendre la même mesure, mais pour l'instant, il y a très peu de pays. Et sur le pass sanitaire, personne n'est allé aussi loin que ce qu'est en train de tenter la France. On verra si ça fonctionne, si c'est efficace, si les Français adhèrent. Jusqu'à présent, ils ont montré de la discipline et même de la résilience. On verra si les premières mesures... Alors, il faut toujours être prudent, il faut attendre les mesures de Frédéric Dabi de l'IFOP, voir si les Français adhèrent et s'emparent de ces mesures. C'est un vrai test, mais je crois que ce qui a été... le choix qui est fait par l'exécutif, c'est de se dire que c'est le moyen peut-être aussi d'éviter une fracture entre les vaccinés et les non-vaccinés.
Et les non-vaccinés, bien sûr. Allez, on continue à en parler dans un instant avec nos grandes voix, avec vous, 39-21. Tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Suite FM, nos grandes voix de ce mardi avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Bruno Jeudi de Paris Match. Beaucoup d'appels au standard. Je voudrais juste vous citer Philippe de Nantes, a trouvé que l'allocution de Macron était austère sur la forme. Jérôme de Lille a été testé positif au Covid en avril. Il aurait besoin d'une seule dose de vaccin, mais il n'arrive pas à avoir son QR code pour le test PCR qu'il a fait. Voilà, merci pour tous vos appels. Frédéric Dabi, est-ce que Emmanuel Macron hier soir a réussi à fixer un cap ? Est-ce qu'il a réussi à enjamber son échec des régionales ?
Oui, cet échec, il l'a clairement enjambé. Il l'a même enjambé avant l'élection. Il l'avait intériorisé, pas aussi de manière complète. C'est quand même le président de la Ve République qui va se représenter avec zéro victoire à un scrutin intermédiaire. Qui va sans doute se représenter avec aucune victoire à un scrutin intermédiaire. Ça n'a aucune importance, si je puis dire, compte tenu de la fin de la bipolarisation et compte tenu de ces sphères politiques totalement étanches entre la sphère politique locale dominée par les partis de l'ancien monde et la sphère politique nationale. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'il a parlé de l'objectif 2030, lorsqu'il a parlé de préparer notre avenir, comme le disait Bruno jeudi tout à l'heure, le Covid, je ne dis pas que ça lui sert, mais ça lui permet de créer un effet drapeau autour de lui, de compenser l'absence d'action et de réforme par le père de la nation, qui n'était absolument pas en 2017, dans un contexte où il souffre toujours d'un déficit de proximité auprès des Français. En tout cas, le cap, on le voit, et le cap par rapport à son électorat acquis et potentiel, c'est que dès que la crise sera terminée, la poursuite et la reprise des réformes, avec un risque de fracturation de l'opinion.
Bruno Jeudi, on en parlait tout à l'heure, justement, la réforme des retraites, la réforme du chômage. Ces annonces, on entend cette petite musique depuis ce matin, ont cristallisé l'opposition des syndicats. Est-ce que ça peut, comment dirais-je, provoquer une rentrée sociale agitée et réveiller les syndicats?
Ce qui est certain, c'est que bon, la réforme du chômage auprès des syndicats, alors MEDEF mis à part, fait l'unanimité contre elle. Mais ça, ce n'est pas une nouvelle, ils le savent depuis un an, et cette réforme aurait dû être appliquée il y a déjà un an. Elle a été reportée à cause de la Covid, et elle sera mise en œuvre le 1er octobre. Emmanuel Macron l'a dit hier soir, c'était sans doute l'annonce la plus concrète, hormis le passage sur le sanitaire, de cette intervention. Est-ce que ça réveillera les syndicats ? Je ne le crois pas. Je pense que les Français ont la tête ailleurs. La réforme des retraites aurait pu réveiller les syndicats et sans doute provoquer du mouvement. Or, on voit bien que cette réforme des retraites, il n'y en aura point pendant ce quinquennat. Il a fixé ça au moment où la crise sanitaire sera terminée. Lui-même, 10 ans plus tard, devant les députés, qu'il y en avait encore pour 2 ans. Donc, on a compris que cette réforme des retraites est au minimum renvoyée à l'automne 2020. Et sans doute que Emmanuel Macron, finalement, il l'a quand même, hier soir, il l'a cité parce qu'il a besoin d'envoyer des signaux vers cet électorat de la droite modérée qu'il veut continuer à cajoler et espérer le capter, en tous les cas, ne pas le laisser à son rival Xavier Bertrand. Donc je trouve que le compte n'y était pas hier soir en termes de réforme. Même si la posture du président réformateur est toujours là, le compte n'y est pas incontestablement. Emmanuel Macron sera sans doute le premier président de la République depuis François Mitterrand à ne pas avoir réformé les retraites. Et croyez-moi, ce sera un argument de ses opposants de droite pendant la campagne présidentielle. Mais il a d'autres atouts, Frédéric a raison. Son atout, c'est sans doute d'être quelqu'un qui s'est chéfé dans la tempête. C'est l'image qu'il projette. Et quelqu'un qui a été quelque part, et c'est ce que c'est un peu la surprise des sondages de la crise sanitaire qui a été empêchée. Et au fond, ça, les Français valident cette hypothèse et lui donne gré sur ce point-là.
Frédéric.
Oui, c'est vrai qu'il pourra peut-être échapper à ce qui avait coûté à Giscard d'Estaing ou à Sarkozy le bilan boulet, l'absence de résultats. Il pourra construire un récit qui est premièrement, mon bilan n'est pas celui de la crise sanitaire, je n'en suis pas comptable. La France allait beaucoup mieux juste avant la crise sanitaire, même s'il y avait une très forte mobilisation contre la réforme des retraites. Et je suis celui qui est le mieux placé pour construire la France de demain, pour réamorcer la pompe, pour pouvoir, je dirais, contenir cette image de déclin qui s'est enquistée dans l'opinion publique. Et de ce point de vue-là, il a des atouts. Quand même, le signal sur la réforme, c'est clairement une tentative de conserver cet électorat de droite acquis potentiel, mais qui de plus en plus regarde vers Xavier Bertrand.
Frédéric Dabi de l'IFOP et Bruno Jeudy de Paris Match. Un grand merci à vous deux. Bonne soirée.